Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Ravi de vous retrouver ce dimanche matin sur RMC. On est ensemble jusqu'à midi. Pour certains d'entre vous, bah oui, c'est le dernier dimanche avant la rentrée. Pour tout le monde, hein, d'ailleurs, hein, à part ceux qui ont repris le travail depuis quelques temps déjà, qui nous écoutent. On est content de vous accompagner ce matin. Les grandes gueules du sport avec un beau programme et une belle tablée, surtout autour de moi avec Julien Beneteau ce matin. Salut Julien.
Salut Georges, salut tout le monde.
Tu veilles toutes les nuits là, pour regarder l'US Open ou... Tu fais des choix. Tu fais des impasses.
Je fais des choix. Je veille beaucoup plus pour les fins du tournoi du PGA Tour que pour l'US Open.
Ah ouais, d'accord.
Je suis honnête.
Honnête, mais c'est ce qu'on demande, évidemment. On parlait de golf, évidemment. Simon Dutin, d'ailleurs, qui est là, est venu avec son t-shirt. Golf is the new skateboarding. Le golf est le nouveau skateboard.
C'est le sport des jeunes, Georges. Salut tout le monde. Bien sûr. C'est le sport qui trade.
Tu sais, comme disent les jeunes. Comme disent les jeunes. Dans un mois, tu peux plus répondre de nous, quoi.
Ah ouais.
Ah bah.
C'est ce qui se passe dans un mois, Georges.
La Ryder Cup.
La Ryder Cup
de l'année.
Vous êtes plutôt Team Europe avec.
Team USA.
Avec Rory McIlroy, vous êtes plutôt Team USA. Bah, je sais pas.
Avec qui?
Avec Scotty Scheffler.
Voilà.
Attendez les gars. Vous voyez pas.
Ouais,
parce que là, en fait, JC Drouet n'est plus là, donc vous vous dites, on pourra plus parler de golf. Non, attendez les gars.
Moi, je roulais avec Scotty toute l'année sur le PGA Tour, mais là, je vais rouler avec Rory et ses copains. Quand même.
On pourra noter cette punchline, s'il vous plaît. Je roule avec Scotty. On peut en faire des t-shirts, je pense. David Douillet est avec nous ce matin. Salut David.
Salut les amis.
Salut David. Salut
David. David, à qui on va rendre hommage dans les GG Remonte le temps aujourd'hui. Vous savez qu'il y a pratiquement 25 ans, jour pour jour, tu décrochais ta médaille d'or, ta deuxième à Sydney. Hier, au téléphone, David, tu m'as dit, ça met un coup quand même.
Ah bah, sacré coup de vieux, ouais. 25 ans, je ne les ai pas vus passer. C'est terrible. Non, mais c'est une catastrophe.
C'est plutôt bon signe quand tu ne les vois pas passer.
Ouais, t'as raison, mais mon Dieu, quand ils sont passés, quoi. Tu dis, bon, bah, il me reste quoi devant, quoi. Tu vois, c'est un peu ça l'histoire.
Il reste des kilos qu'on a tous pris, David.
Ouais, bah, qu'on va tous perdre aussi, hein, parce que si on veut aller de l'avant pour aller plus en avant, il va falloir qu'on en perde quelques-uns quand même.
Voilà. Bon, c'est super, en tout cas on se réveille de bonne humeur, hein. On se demande qu'est-ce qui nous reste avant la mort, hein, ce matin, pour être tous dans une bonne énergie. Sarah Pitkowski, ça va?
Bonjour messieurs, bonjour à tous.
Qui s'est fait surprendre par la pluie, qui arrivait trop.
Ouais, je suis un peu. Ouais. C'est ça.
Ouais. Sarah, je vous préviens qu'aujourd'hui, on va inaugurer ça. Sarah est votre capitaine des grandes gueules aujourd'hui.
Elle remplace Christophe Cessieux.
Elle remplace Christophe Cessieux.
C'est l'immense honneur de prendre la place de Christophe.
Alors, je vous explique, on a une nouveauté dans les grandes gueules du sport cette année, qu'on devait inaugurer avec Christophe Cessieux, qui, je vous rappelle, s'est fracturé le poignet en faisant du kitesurf au Brésil. Cette phrase est réelle. Il devait normalement être le capitaine des grandes gueules, c'est-à-dire avoir un parti pris dans les émissions, prendre le brassard. On a décidé d'inaugurer ça avec Sarah ce matin, qui a un gros parti pris. Donc, sacrée responsabilité.
Oui, absolument.
Voilà. Mais toi,
Christophe, si tu pouvais revenir vite, ça m'arrangerait.
C'est pas pour tout de suite, hein, on va voir, même s'il aimerait revenir. Allez, le programme jusqu'à midi dans vos grandes gueules du sport. À 10h, le ring des GG. On va parler de nos Français en 8e de finale de l'US Open, les amis. Faut-il se contenter du niveau actuel du tennis français? Vous n'êtes pas forcément d'accord, d'ailleurs, nos deux GG du tennis aujourd'hui. Je vous rappelle, Rinderknecht Alcaraz et Manarino Lehecka aujourd'hui en 8e. Captain Pitkowski, donc prends le brassard. Tu veux nous parler de Pauline Ferrand-Prévot? La PFP Mania en France a été de retour hier. La gagnante du dernier tour a fait son retour. Est-elle la plus grande sportive de tous les temps? C'est ce que tu veux défendre?
Ben oui.
Tout simplement.
Je me lance.
Les GG remontent le temps, je vous le disais. On va rendre hommage à David, il y a 25 ans, le doublé à Sydney. Les GG se confient dans le vestiaire à 11h. Comment rebondir après une grosse performance? On va se poser la question, vous savez, avec Loïs Boisson, qui peut-être pour le grand public a du mal à rebondir après sa demi-finale à Roland-Garros. On va voir que ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Sur le buzzer, la F1 résumé à un duel fratricide. Norris Piastri, est-ce que ça vous excite? Ils sont tous les deux sur la première ligne au Grand Prix des Pays-Bas, à suivre tout à l'heure à 15h sur RMC. Et puis en fin d'émission, on jouera dans les GG du sport. Pour participer, 32-16, le compte X des GG du sport et notre numéro WhatsApp 06 12 424 424. Je préviens déjà les GG, n'envoyez pas des WhatsApp pour vous soutenir vous-même, comme l'a fait Cédric Emmons hier. Un message de Cédric, j'aime Cédric Emmons. C'était un peu direct. Allez, c'est la rentrée sur RMC. On va vous couvrir de cadeaux toute cette semaine. vous allez remporter 1000 euros ou si vous ouvrez le coffre RMC, vous repartirez avec la totale. Un MacBook Air, une console Nintendo Switch 2, une montre connectée Garmin, un abonnement annuel à Ligue 1 Plus et un séjour Lagrange Vacances d'une valeur de 1000 euros. Dès que vous entendez ceci, envoyez coffre au 732-16, coffre au 732-16. Mais d'abord, les amis, dans notre bonne vieille Ligue 1, un duel olympique ne vaut-il pas mieux qu'un classique ?
RMC, la une des grandes gueules du sport.
Deuxième jaune pour Balerdi, et rouge pour Balerdi, wow, deux fautes, Coulisson et la casette. Deuxième minute, quatrième minute, merci, au revoir. Balerdi rentre au vestiaire. La tête, et le but de Tchaletassar. L'ouverture du score pour les Lyonnais. Le centre de Mata. Et le but. Le but pour l'Olympique Lyonnais. Cherki, c'est lui qui l'avait, me semble-t-il, du talent. Ah, le but.
Incroyable.
Cette fois-ci, c'est bien lui. C'est Jonathan. La frappe est terrible. À l'entrée de la surface de réparation. Péry est battu. Ça fait 3-2 pour l'Olympique de Marseille. Tribune qui égalise. Le deuxième but marseillais, Adrien Rabiot.
Oui, c'est le régalé.
La volée du pied droit de Luis Enrique. C'est terminé avec la victoire de l'Olympique de Marseille sur le score de 3-2. L'OM ce soir a été renversant.
C'était des émotions fortes, hein. L'année dernière, Marseille-Lyon, c'est le premier gros rendez-vous de ce début de saison de Ligue 1. Ce soir, 20h45, donc choc des Olympiques. À suivre en direct sur RMC, dans l'After Live avec Jean-Louis Tour. L'OL et l'OM, c'est une confrontation qui est montée en température au fil des saisons. Une rivalité alors qui va parfois trop loin en dehors des terrains. On se souvient les polémiques d'arbitrage, les projectiles. Mais c'est surtout sur le rectangle vert que l'on se régale. Vous l'avez entendu, avec des matchs parfois irrationnels. On a eu 2 fois 3-2. L'année dernière, les GG, la question que je vous pose ce matin, oui ou non, le choc des Olympiques n'est-il pas devenu plus intéressant dans notre Ligue 1 que le classique PSG-OM ? Julien Beneteau.
Bien plus intéressant.
Sarah Pitkowski.
Non, pas pour moi.
David Douillet.
Non, moi non plus.
Simon Dutin.
Oui, bien sûr que oui.
Ah, deux oui, deux non. Supporters lyonnais et marseillais, on vous attend évidemment au 32-16. Julien, tiens, supporter marseillais devant l'éternel.
C'est pour ça qu'il peut difficilement être objectif.
Non, mais c'est intéressant pour le coup. C'est vrai, et je pense qu'on attend d'ailleurs les supporters marseillais au 32-16. Aujourd'hui, c'est plus important pour toi cet Olympico, comme on dit.
Plus important sportivement, oui. Plus intéressant.
Plus intéressant.
Évidemment qu'il est beaucoup plus intéressant. Dans la petite introduction qu'on a entendue, on n'a qu'à voir l'émotion et les commentaires de Jeannot Rességuier sur OM-OL et OL-OM. On n'a plus du tout ça avec le PSG. Parce que la différence aujourd'hui, elle est beaucoup trop énorme. Que le PSG, l'OM joue pas le titre de champion de France, c'est réservé pour le Paris Saint-Germain. L'OM joue une place directe en qualification de la Ligue des Champions. Quels sont ses rivaux directs ? C'est Lyon, c'est Monaco et Lille ou Rennes en fonction des saisons. Donc c'est sportivement beaucoup plus intéressant aujourd'hui. Il y a une vraie rivalité. Les deux clubs se ressemblent de plus en plus. Cette rivalité, en plus, elle était encore un peu plus exacerbée quand il y avait Jean-Michel Aulas à la tête de l'Olympique Lyonnais. Et même si je me suis plongé un petit peu dans mes souvenirs, en fait, OM-PSG, c'était intéressant quand ? Que dans les années 90.
Quel aveu de faiblesse pour un supporter de Marseille.
Parce que l'OM et le PSG étaient au sommet de la France.
Donc ça veut dire
sur les 30 derniers classiques, seulement 2 victoires de Marseille.
Voilà. Hein. Et n'oublions pas que cette rivalité, elle a été montée de toutes pièces avec Bernard Tapie et Canal+. Donc avant, ça ne compte pas. Et après, c'est l'héritage de ce qu'ils ont créé. Mais cet héritage, qui se souvient de certains OM-PSG des années 2000? Fin des années 90, on se souvient de quoi? Du Simone Batman, de Ravanelli, le pénalty avec Rabé Santana. Les OM-PSG des années 2000,
oui,
on s'en souvient pas.
Parce que
le PSG était à la cave.
Il y avait les minots venus au Parc des Princes.
Le classique ne se résume pas à ce qui va au fond des filets.
Non, mais ce classique, il était...
Ça ne se résume pas à ça. Regarde tout ce qu'on fait à chaque fois qu'il y a un PSG-OM-OM-PSG. Même pour les doux rêveurs...
Moi, je
je trouve qu'on en fait beaucoup trop.
Mais c'est normal.
Le classico, le super classico, Boca River, Barça, Real et compagnie. Mais
c'est la capitale face à la plus grande ville de France.
C'est ce qu'on a voulu créer et je pense que c'est...
Et ça le reste. Et ça le reste.
Moi, aujourd'hui, je suis beaucoup plus excité par le OMOL de ce soir que par si c'était un OMPSG. OMPSG, on sait ce qui va se passer. Au bout de 10 minutes, les Marseillais vont être à la rue, vont péter les plombs, vont pas être bons. Il va y avoir 1 ou 2-0 pour le PSG et le match, il sera terminé. Là, il peut y avoir un vrai suspense. C'est hyper important pour le championnat, encore plus vu la situation de Marseille et ce qu'ils ont fait depuis le début de saison. Donc, pour moi, vraiment, c'est en toute honnêteté, c'est pas du par rapport au fait qu'on soit trop loin du PSG, c'est que pour moi, ça m'intéresse plus, quoi.
Simon, comment tu vois le...
Je souscris totalement à ce que vient de dire mon camarade Bento. T'avais bossé un petit peu. Moi, j'avais une victoire sur les 10 derniers classicos. Et ça fait deux sur les 30 derniers. En effet, Julien a raison. Ces deux clubs qui sont taillés à des dimensions plus similaires que Paris, qui ne souffre d'aucune comparaison. Ça ne gâche rien des scores souvent de baby-foot. Moi, je me souviens du 5 partout en 2009. J'étais jeune journaliste, alors il fallait que je monte le résumé. J'avais pris un jus international. Les deux matchs de l'an dernier, sont les meilleurs exemples. Le 2-3, le 3-2, ça fait deux victoires marseillaises, mais c'était des matchs équilibrés, des rebondissements, des remplaçants qui marquent de la dramaturgie. Tu l'as souligné dans ton intro. Bon, c'est pas ce qui fait le plaisir absolu de ces rencontres, mais il y a de la tension entre les supporters, il y a une odeur de soufre qu'on essaye de cacher sous les placards dans le football français depuis ces dernières années, mais qui peut rappeler à certains derbies, alors sud-américains, tu t'y connais mieux que moi, Georges, mais ou même dans certains pays baltes. Je l'Olympico, en plus, c'est nous qui l'avons créé, tu vois, ce label, alors que le Classico, on l'a piqué aux Espagnols.
Quoi, l'Olympico, c'est un peu imposé finalement aussi, plus naturellement, voilà, que le Classico.
On a créé tout le Classico pour monter cette rivalité, alors que l'Olympico, exactement, il s'est imposé. Il y a plus de suspense, des équipes plus équilibrées. Alors bon, il va falloir voir comment l'OL gère cette fin de mercato. Mais des retournements de situation, plus de spectacles. Et moi, je suis comme Julien, je suis plus impatient de voir le match de ce soir que le prochain PSG-OM ou OM-PSG.
Ouais, mais je suis désolée, on parle en tant que spécialiste autour de cette table, mais si on va... De spécialiste de sport, d'aficionados, tu vois. Si on ouvre de manière un peu plus large, tu descends dans la rue, tu demandes à monsieur, madame, tout le monde, l'Olympico, ils ne savent pas ce que c'est. Ils savent pas ce que c'est. Et je suis désolée de vous dire que le classique ou le classico, comme on disait à une certaine époque, reste la référence d'un moment où tu vas peut-être te mettre devant la télé, même si t'es pas spécialiste de foot. Tu vas le regarder du coin
mais
de l'œil.
Les médias, Sarah, on a créé ça. La Ligue a tenté de faire monter ça parce qu'évidemment, il y a un produit à vendre.
Oui, mais il y a
quand tu regardes les exemples, Julien l'a rappelé.
Mais
au
c'est
bout
pour
d'un
ça que je dis, ça dépend à qui on s'adresse. Mais si on s'adresse à un très large public, ça reste quand même le match qu'on va regarder. Un PSG-OM, un OM PSG fera toujours plus d'audience qu'un classique.
Oui, mais parce que c'est les deux émetteurs les plus forts de notre championnat.
Donc devenu plus intéressant. Je suis désolée, question. Je peux pas vous dire oui aujourd'hui. Je vais pas. En tout cas, pour ma part, je ne suis ni supportrice de l'OL ni de l'OM. Mais si j'ai un dîner chez des amis ou j'ai un événement de famille.
Tu vas plus les convaincre.
Je vais poser mon téléphone, je vais pas le regarder toutes les 5 minutes. Si j'ai un PSG-OM ou un OM-PSG, j'irai regarder discrètement le résultat pour voir ce qui se passe.
Le choc des Olympiques est-il devenu plus intéressant que le classique PSG-OM? David, toi t'es plus PSG-OM.
Ouais, je suis au même dîner que Sarah, moi. Je suis d'accord.
Déjà parce qu'il y a à manger.
Non, ce qui se passe.
Vous saurez rien. Non, mais je suis d'accord avec Sarah. Le truc, c'est que, ok, vous vous intéressez à. C'est comme si vous compariez deux équipes régionales avec quelque chose qui se passe au national. Voilà. Pour moi, l'objet du classico, c'est un objet national. Pour moi, l'objet de Lyon ou de Marseille, on a redescendu d'un cran et c'est régional. Alors oui, au niveau confrontation, au niveau suspense, au niveau tout ça, on a
au deux niveau foot quoi.
Sont un... Oui, au niveau foot. Oui. Au niveau,
non mais c'est ça. Je pense. Avant de laisser finir, David, je pense que c'est ça. C'est-à-dire que PSG. OM, ok, ça dépasse un petit peu le cadre des amateurs de foot, alors que pour les amateurs de foot, les gens qui s'intéressent vraiment à la Ligue 1, vraiment au ballon, je pense que OL, OM, OM, OL, c'est plus intéressant. Voilà.
Tu as raison, Simon. Mais, je suis désolé. Moi, il me reste toujours un petit truc. Alors, c'est peut-être mon petit côté franchouillard, hein. Moi, j'aime bien les combats David contre Goliath, tu vois. Et ça m'intéresse toujours. Et j'ai toujours, au fond de moi, le secret espoir que David va mettre un coup de pied dans le derrière à Goliath, tu vois.
Et tu parles pas de toi.
Tu vois, c'est... Non, bien sûr que non. Oh, quoi que.
T'as tout Goliath.
Non, mais voilà. C'est ça m'intéresse. Et, c'est ce qui... enfin, moi, j'aime aussi ça, hein. Quand je vois une équipe qui joue bien, qui joue beau, même quand elle gagne 5-0, si quand il y a 5-6 pions, quand il y a un score de babyfoot comme tu disais Simon, ben ça m'intéresse quand même parce que tu vois la différence qu'il y a entre deux équipes, tu vois la marche énorme qu'il y a encore à gravir par rapport à une équipe qui est un peu en dessous, ça donne un peu le ton, le là de la compétition à venir et ça m'intéresse et comme Sarah, moi je me lève pour aller voir de ce repas pour dire tiens, est-ce qu'ils ont mis un but, au moins un. Est-ce que qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que non, mais vraiment. Alors que le Classico, bon, c'est un match comme les autres. L'Olympico, c'est un match comme les autres, quoi. C'est.
Et si on demande à un supporter de Marseille.
On vous attend au 32-16 d'ailleurs. Un supporter marseillais.
Si tu lui demandes exactement où si tu veux match Lyon, il va te répondre quoi?
Mais bien sûr. Au niveau du prestige, c'est pas ça. La question, c'est est-ce que il est plus intéressant?
Eh ben, c'est intéressant, mais qu'est-ce qu'on met derrière?
C'est intéressant, pas intéressant d'ailleurs.
Intéressant.
Non, mais toi, tu dis, faut pas se faire
plus intéressant que quelqu'un de Marseille.
Non, mais sportivement, l'importance sportive aujourd'hui. Enfin, moi, je suis entraîneur de Marseille. Je le dis pas à mes joueurs.
De quoi?
Secrètement. Et je ne le dis pas aux supporters, mais je fais le plan de...
Il est plus décisif pour le classement,
bien sûr. Dans ma tête, je fais le plan fais un plan sur la saison. Bon, bah,
PSG... Il vaut mieux être prêt face à l'OM que face au PSG.
Il n'est pas plus intéressant que son match.
PSG, c'est 0 points
sur 6. C'est hors série, PSG.
Voilà, c'est 0 sur 6, c'est pas là-dessus qu'on va aller prendre les 75 points qui vont nous permettre de, ou les 70 points qui vont nous permettre d'aller se qualifier pour la Ligue des Champions.
Alors, si t'es un entraîneur et un coach qui est un peu menacé à Marseille, si tu veux te racheter auprès de tes supporters... Si tu fais un super match face à Paris, et si tu repars avec un match nul, et si par miracle tu gagnes, mais là t'es tranquille pour tout le reste de la saison.
Eh ouais, mais,
dans le cœur des Marseillais.
Oui, mais c'est là où c'est le problème de ce club, c'est qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'ils veulent? Tu bats deux fois le PSG et tu finis cinquième et tu joues la Conference League, ou tu prends deux branlées par le PSG.
Ça, c'est une question imposée.
Et tu finis deuxième et tu es en Ligue des Champions et tu ramasses les sous et ton club se structure, etc. Bon, bah, la deuxième solution, je la prends, mais. 100 000 fois.
Ouais, et en D1, Ligue 1, on appelle ça comme tu veux, c'est 37 victoires pour l'OL, 35 pour l'OM, le reste c'est des matchs nuls. Donc ça prouve que historiquement il y a quand même un équilibre.
Ouais, mais tu touches plus d'argent en diffusant un PSG.
Ouais, c'est pas la question, parce qu'il y a plus
de téléspectateurs.
Vous n'êtes pas d'accord. Lyon-Marseille, le choc des Olympiques est-il devenu plus intéressant que le classique PSG-OM? Supporter marseillais, lyonnais, on vous attend au 32-16. Tiens, il y a Joris qui nous attend, supporter marseillais. On va l'accueillir dans quelques instants dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les Grandes Gueules du Sport.
Georges Quirineau.
Avec David Douillet, avec Sarah Pitkowski, Julien Veneto, Simon Dutin, notre débat à la une ce matin, le choc des Olympiques, Lyon-Marseille ce soir, 20h45 à suivre sur RMC, est-il devenu plus intéressant que le classique PSG-OM? Vous n'êtes pas du tout d'accord, hein, autour de la table, vous êtes très divisés, et c'est intéressant pour nous évidemment d'avoir les supporters au 32-16. Tiens, Joris, supporter de l'OM, nous appelle, salut Joris.
Bonjour à tous.
Salut Joris.
Bon, toi, pour toi, le choc des Olympiques est devenu plus intéressant que PSG-OM ou pas?
Il devient plus intéressant sportivement, puisqu'on est un peu plus proche de... On joue dans la même catégorie que Lyon, ou ils jouent dans la même catégorie que la nôtre, parce qu'ils sont un peu plus... Dans les budgets, on est à peu près pareil, dans les effectifs, à quelque chose près aussi, donc on sait... On joue contre Lyon, que ce soit à la maison ou là-bas, comme ce soir, on sait qu'on peut peut-être gagner le match. On a une grosse probabilité de le gagner. Puis après, c'est une rivalité quand même qui s'est installée depuis plus de 10 ans, puisque ça fait 2009 qu'il y avait eu le 5-5 à Gerland. Donc c'est toujours été quand même des gros matchs. Après, le problème entre l'Olympico maintenant, je sais pas comment il faut le dire, je sais pas comment il faut l'appeler.
Mais parce qu'il a pas vraiment de nom, en fait.
Voilà. Si, mais ce match-là, mais entre ce match-là, qui est important, hein, puisque ce soir, c'est un gros match, on l'attend, on veut le gagner, et quand même Paris, ça reste, le gros match de la saison, ça reste quand même, ah oui. Quand on arrive au stade et quand on y va, même si on pense qu'on va perdre, parce qu'il y a, on veut quand même les taper fort, hein, on est quand même, il y a une, comment dire, il y a une énergie, elle est différente quand même que quand on
est au stadion. Tu vois, tu le dis toi-même.
Non, mais
elle est différente.
David Douillet.
Joris, la semaine qui précède le match PSG-OM, est-ce qu'elle est beaucoup plus forte que la semaine qui précède le match de ce soir?
David, je vais aller dans ton sens pour ça. Même avec tout ce qui s'est passé cette semaine, c'est-à-dire Rabiot, le Mercato, la Ligue des Champions et tout ce qui s'ensuit, si ça avait été la semaine de PSG-OM ou de OM-PSG, vous aurez parlé beaucoup, enfin, même nous et même les médias auraient parlé beaucoup plus du match, alors que là, cette semaine, le match, on n'en a quasiment pas parlé. Très peu. On en parle aujourd'hui parce que c'est maintenant, on touche au but, là, ce soir. Mais si ça avait été la semaine pendant le Classico, tout le monde en aurait parlé en disant, oh là là, Rabiot ne reviendra pas au parc ou il y sera pas, peut-être.
Non, mais c'est vrai qu'on aurait beaucoup plus parlé, peut-être, Joris, de l'incidence. On aurait dit, oh là, l'affaire Rabiot va faire peut-être que Marseille va prendre une pile contre le PSG. Mais alors que là, c'est vrai qu'on n'a pas tellement ramené l'affaire Rabiot à ce que ça peut impliquer sur le match contre Lyon. En tout cas, beaucoup moins.
Alors là-dessus, je suis pas d'accord.
Pas d'accord?
Parce que qu'il y ait Rabiot ou pas Rabiot, tu prends une branlée contre le PSG. Non, mais c'est vrai, premièrement.
Oui, alors, mais ça se serait installé quand même dans le bruit médiatique avant la rencontre.
Je suis d'accord. Le truc général, c'est justement, ils sont un peu dans la mouise, excusez-moi l'expression, parce qu'ils savent qu'avec Rabiot, ils sont meilleurs, et que là, s'ils le perdent, ils vont s'affaiblir. Et on a parlé toute la semaine de ça, que l'OM sera plus faible sans Rabiot, et que du coup, De Zerbi a fait marche arrière, parce qu'il a bien vu que son équipe ne tournait pas sans Rabiot, et qu'il a mis la pression à ses dirigeants là-dessus. Mais on dit que c'est pour revenir sur le match de ce soir, et c'est intéressant ou pas, faut pas se tromper, hein, les gars. Alors on va me dire oui, c'est début de saison, mais bon, le début de saison, c'est toujours, on se dit toujours ça, et puis à la fin, tu fais les comptes. L'OM, ils perdent ce soir. Ils sont déjà à 6 points de PSG, donc merci, au revoir. Et ils sont à 6 points de Lyon. Exactement. Ils sont à 6 points de Lyon s'ils perdent ce soir. Et Lyon, c'est vraiment un concurrent direct cette année. Donc, bien sûr que sportivement, l'intérêt et l'importance...
Il y a un argument en effet conjoncturel, parce que l'OM fait un très mauvais début de saison, qu'il y a cette affaire Rabiot-Jonathan Rowe, que l'OL exactement à qui on prédisait l'enfer est plutôt pas mal. On va voir ce que ça donne sans Mikotaze, alors il faudra un buteur peut-être quand même un jour. Et en effet, De Zerbi, mais
n'importe qui en attaque en face, ça fera la diff quand même.
Mais l'optimisme. De Zerbi, en effet, même si l'OM avait commencé par deux victoires, le match de l'OL, il l'a coché, il a entouré la date, alors que celui du Classico, bon, a priori, il n'a pas budgété les 3 points.
Voilà.
Je rappelle d'ailleurs que le Classico, parce que c'est comme ça que certains l'appellent encore,
hein, mais
c'est vrai que c'est une invention marketing plus de Canal+, hein. OM-PSG, c'est 5 jours après Real Madrid-Marseille.
Imagine la semaine.
Ouais.
En 3 ou 4 à Bernabéu, tu arrives au Vélodrome, tu n'as plus le droit à l'erreur si tu es à 6 points de tes concurrents direct. C'est après la trêve internationale.
Enfin, vous avez des cachets pour Julien, parce que là, le mois de septembre va être très compliqué.
Avec le début de saison, il est passionnant. Le
Julien, ça fait deux week-ends qu'il vient, il parle de l'OM, il dit c'est l'enfer.
T'es cerné en plus.
Mais non, mais il me fatigue d'être aussi bête à ce point-là et de refaire les mêmes erreurs année après année. Et attends, on n'a pas vu encore Pêche à l'eau, là, et qui va arriver. 35 millions, le nouveau Ribéry. Le nouveau Ribéry qui veut être en Seleção. Enfin, lui, il a tout. Et pour que ce soit le flop.
Julien, c'est pas parce que Denis Charvet n'est pas là que tu dois remplacer et dire n'importe quoi sur les noms. Hein. Je te préviens. Merci Joris d'avoir appelé au 32-16. Tiens, Valentin, autre supporter marseillais qui nous appelle. Salut Valentin.
Salut l'équipe.
Salut. Plus intéressant le classique OM-PSG ou l'Olympico pour toi?
Alors, en fait, il faudrait découper ça en deux dimensions. On va dire que termes.
Alors je note.
Ce qui va nous intéresser, nous supporters marseillais, c'est. Ça va être beaucoup plus l'Olympico, parce que l'Olympico, il va y avoir vraiment une vraie rivalité. Vous avez utilisé plein de fois le mot rivalité depuis le début de ce débat. Il y a une vraie rivalité. Paris, il n'y a aucune rivalité. C'est-à-dire que demain, il y a le Classico, on va perdre. Franchement, je vais me lever le lendemain, ça ne va rien changer à ma journée. Ce soir, si on perd, je vais me lever demain, je sais que je vais passer une mauvaise semaine. Parce que l'Olympique lyonnais, ils ne sont pas en forme. Nous, on a fait un mercato qui est quand même très, très correct. Même s'il y a eu des histoires avec Rabiot, etc., il en passe. Si on gagne ce soir, ça va être génial. Si on perd ce soir, on va être dégoûté. Alors que si on perd le Classico, on va dire que c'est un peu la routine.
Et si tu gagnes contre Lyon et que tu gagnes contre le PSG. Là, c'est Noël toute l'année, non ?
Ah bah oui.
Et justement, et que tu gagnes contre le Real et que tu gagnes avec des champions.
Oui, bah oui.
Vas-y, Valentin.
Non, je suis abonné au stade. J'étais au stade de la dernière victoire contre Paris en Coupe de France. Effectivement, l'émotion que j'ai ressentie en sortant du stade, c'est une émotion que je pense que la dernière fois que j'ai ressenti ça, c'était en Coupe d'Europe contre le RB Leipzig.
Voilà. Comme on n'a pas le droit d'être content trop longtemps, ils ont réussi à perdre contre Annecy derrière au Vélodrome. Tu vois, c'est ça aussi.
Pourtant, on n'était pas obligé d'en parler non plus.
Ouais, là, mais c'est ça le problème, c'est qu'on peut pas être content longtemps avec eux en ce moment.
Ouais, non, c'est sûr. Mais, mais ce qui va être le plus intéressant, ça va être l'Olympico par contre. Paris, ça va être génial si on gagne. Franchement,
je crois qu'avec David, on a gagné.
La fête dans Marseille. Mais l'Olympico va être plus intéressant en termes de football.
Merci Valentin d'avoir appelé au 32-16. Tiens, d'ailleurs, je vois sur notre numéro WhatsApp, vous le savez, le 06-12 424 424. Globalement, on a les mêmes avis. Hein. Moussa, là, qui nous dit PSG-OM, c'est une rivalité qui est montée de toutes pièces, surtout par les médias. OL-OM, plus équilibrée, la dramaturgie, elle est quasiment à chaque match, donc elle s'est créée un peu plus naturellement.
Je ne suis pas d'accord de dire que OM-PSG, ça a été monté par les médias. C'est les supporters.
Ça a été appuyé quand même.
Par définition, le Marseillais n'aime pas le Parisien et le Parisien n'aime pas le Marseillais. Enfin, je veux dire,
oui,
c'est une
c'est
histoire.
Le Nord et le Sud, c'est les Timi et les Aura. Voilà.
Mais oui, c'est ce que je disais au début. C'est la capitale contre la plus grande ville de France. Et c'est pas les médias. Les médias se sont appuyés dessus, mais parce qu'il y avait un terreau. Parce que ça existe depuis toujours.
Tiens, on va écouter Roberto De Zerbi, le coach marseillais, avant cette rencontre, en plein milieu de l'affaire Rabiot. Il a surtout été question de ça à la conférence de presse, et un peu moins du match de Lyon.
On est concentré sur Lyon. L'an passé, on a fait un très grand match et nos supporters s'en souviendront pour toujours. On doit aller chez eux pour faire ce que l'on n'avait pas réussi à faire l'an passé à 10 contre 11. Ils ont perdu des joueurs importants, mais ils ont bien recruté. Ils ont 6 points, sont au-dessus de nous et on doit faire un très grand match.
Vogliamo andare a vincere. Évidemment, Roberto De Zerbi qui sera très attendu ce soir, forcément lui aussi, avant cette rencontre. Qui a le plus à perdre d'ailleurs sur un Noël Marseille ? C'est Marseille soir.
Comme disait Simon, Lyon, avec tout ce qui s'est passé, on ne savait pas s'ils étaient rétrogradés, pas rétrogradés. Fonseca, il est tranquille, il a sa nouvelle présidente qui le soutient. De Zerbi, là, il est obligé de composer. Il fait jouer Gouiri à gauche, il met Nadir en 10 ce soir, etc. Si ça se passe mal, ils vont se dire, mais voilà, c'est de nouveau un gros problème.
Si vous avez le regard de Julien Benneteau en face de vous, je peux vous dire qu'il respire pas d'enthousiasme et l'optimisme.
Puis moi, j'attends la Cannes. C'est-à-dire que là, il n'y aura plus personne en attaque.
Non, décembre, janvier, je rappelle.
Deux max, tu vois.
De Ligue 1 et de Ligue des Champions. Il y en a un Ligue des Champions fin décembre.
Mais après, tu sais que, par contre, t'auras Péchalo qui sera là parce qu'il fait la Cannes, les Brésiliens. Ciao. On va bosser le Brésilien. Bon, OLOM ce soir, 20h45 dans l'After Live avec Jean-Louis Tour à vivre évidemment sur RMC. Dans un instant, les amis, vous allez me dire, est-ce que vous en foutez, est-ce que vous en foutez pas dans le zapping. Tiens, il va être question du PSG notamment. Il y avait du basket également hier. La France a terrassé Doncic. À tout de suite dans les grandes gueules du sport sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Avec Sarah Pitkowski, Julien Benneteau, Simon Dutin et David Douillet. Dans un instant, on va monter sur le ring DGG. On a deux Français en huitième de finale de l'US Open. Aujourd'hui, Arthur Hinderknecht et Adrian Manarino. Ce sera en fin d'après-midi, ça va débuter. Est-ce que le tennis français, est-ce qu'il faut se contenter des performances actuelles? Vous n'êtes pas tous d'accord autour de la table. 32-16 pour participer, évidemment, et vous votez sur notre compte X. Et puis en fin d'émission... Ah, vous en avez l'habitude, maintenant. Voilà, Sarah, elle me regarde déjà avec l'œil du tigre, prête à se battre dans les jeux du sport.
Gagner, ça. Tout à l'heure. J'ai toujours pas désiré.
Simon dans le dur. Bennett qui a été pas mal la semaine dernière. Les auditeurs avaient dit je veux jouer avec Julien Benneteau parce que très fort dans le Picardie.
À mon avis, c'est une valeur sûre.
Il a suivi la légende. Ce week-end, vous pouvez remporter une enceinte portable Mino X de Lexon. C'est une enceinte Bluetooth, évidemment flottante. C'est idéal pour nous écouter d'où vous voulez pour participer et remporter cette enceinte.
Ça marche sous la pluie du coup alors en ce moment.
Elle marche sous la pluie, c'est assez pratique. Voilà. Cool. C'est-à-dire que Sarah qui est arrivée, on va pouvoir s'en servir cet après-midi. Sarah est arrivée sous la flotte, elle aurait pu écouter Allô c'est Fred ce matin sur la RMC. 32-16, touche 4 ou envoyez sport au 7-32-16, sport au 7-32-16 pour participer. Tout de suite les GG, on s'en fout ou on s'en fout pas?
RMC, le zapping des grandes gueules du sport.
Je m'en fous, pas. Le PSG a smashé Toulouse 6-3 hier avec un triplé dingue de Jean Neves et un doublé sur penalty de Dembélé sorti blessé. Julien, tu t'en fous, pas?
Complètement.
Avec un grand sourire. David?
Moi aussi, je m'en fous.
Sarah?
Oh bah non, moi je m'en fous pas.
Simon?
Non, je m'en fous pas.
Je t'en fous pas. Tiens, d'abord, je vais vous dire. Donc, Dembélé sorti à la 70e, touché à la cuisse gauche. L'international français qui s'est voulu rassurant, mais qui attend des examens complémentaires. Jean Neves, héros du soir avec son triplé. On l'écoute au micro de Valentin Jamin.
C'est la première fois que je marque 3 buts. Je suis très content, mais je suis plus content pour la victoire de l'équipe. On était en train de gagner 6-1 et on a cassé 2 buts. Et ça, pour nous, c'est inadmissible.
Joyeux Neves. Tu t'en fous pas, Sarah?
Non, je m'en fous pas. Plein de raisons. Déjà, je suis super contente qu'il y ait des matchs spectaculaires comme ça, pas nécessairement entre le PSG et Toulouse, parce que ça fait du bien pour la Ligue 1, ça fait du bien pour la Ligue 1 plus, même si c'est...
Lille-Lorient 7-1.
Hein. 7-1. Il nous
avec 0-0 à la mi-temps. Hein.
Ouais. Il nous faut, voilà, il nous faut des choses un peu extraordinaires pour qu'on s'enflamme un peu pour cette Ligue 1. Donc déjà, ça c'est très bien.
D'autres consultants aussi sur Ligue 1 plus pour qu'on s'enflamme pour eux quand même.
Oui, moi je vais prendre un chien par-balle pour venir maintenant si c'est un truc à balle réelle.
Tu peux couper le son, tu mets RMC, tu regardes les images.
Ton micro est allumé, Julien.
Deuxième chose, je suis contente pour Dembélé qui avait quand même raté un petit peu ses pénaux depuis le début de la saison. Donc
il en a mis deux là.
Il en a mis deux, voilà, on remet les, parce que avec Dembélé, il faut aussi se méfier. Et puis troisième chose, écoutez, Lucas Chevalier, il fait quand même un bon début de saison avec le PSG.
Il arrête deux pénalties.
Il arrête deux pénalties.
Il arrête un pénalty deux fois.
Un pénalty deux fois, faut le faire.
Ouais. Tu peux arrêter deux fois un pénalty ou une fois deux pénalties.
Non, attends, c'est pas ça l'histoire.
Donc voilà les raisons pour lesquelles je m'en fous pas de ce match, même si le résultat, 6-3. Et puis même Toulouse qui était mené, qui lâche rien. Enfin, en termes d'intérêt, l'intérêt, je pense que là, on a des bons ingrédients pour qu'il y ait encore plus d'abonnés pour suivre la Ligue 1.
Simon ?
Oui, j'ai apprécié la performance parisienne parce que les deux buts qu'ils encaissent en fin de match, il y a 6-1, ça se termine à 6-3. Ils sont anecdotiques pour moi, c'est un peu de fatigue, un peu de déconcentration, mais j'ai vu un PSG qui monte doucement en température, commence à démarrer sa saison. On a suffisamment souligné les difficultés que Paris a eu à gagner contre Nantes, contre Angers. J'ai vu un PSG qui monte en... T'as souligné évidemment la performance de Jean Neves, deux bicyclettes dans un match et puis une frappe pleine de lucarne, c'est exceptionnel. Mais au-delà de ça, j'ai vu un gros PSG avec cette immense Neves. On sent que ça y est, ils sont rentrés dans leur saison. J'ai apprécié la performance de Zabarny, le défenseur central ukrainien, qui joue déjà comme s'il était là depuis longtemps. Très serein, très solide dans le duel, qui a une capacité, soit balle au pied, soit par la passe, à casser la première ligne du pressing. D'un TFC qui, Sarah l'a souligné, équipe très très jeune. Ils ont jamais fermé la boutique, ils ont continué à jouer leur jeu. Ligue 1 Plus a réussi à avoir l'assistant de l'entraîneur du TEF pendant la rencontre. Donc déjà, j'ai apprécié ce petit moment. Et qui a dit, les jeunes, ils sont là pour apprendre. On se sert de ça, ils n'ont pas eu peur de prendre une pilule. Et à côté de ça, Dembouz qui se rappelle au bon souvenir de tout le monde à quelques jours de l'attribution du Ballon d'Or. Donc une belle soirée pour Paris et une belle promotion pour notre Ligue 1, en effet.
Et puis je vais quand même le dire, je pense qu'on a peut-être vu le plus beau triplé de l'histoire de la Ligue 1, quand même. Les trois buts de Jean Neves, il y a deux retournées et une frappe de mule. Tiens, je vous donne rapidement le programme du PSG en Ligue des Champions qui est tombé hier. On sait que ça va commencer face à l'Atalanta le 17 septembre. Et ensuite, il y aura un déplacement à Barcelone, donc dès la deuxième rencontre. Est-ce que ce sera d'ailleurs au Camp Nou ou dans un autre stade? Ça reste à déterminer. Allez, on zappe.
Il y a un match d'entraînement avec Marseille entre temps.
Oh mon Dieu.
Remets une pièce dans le big box, ça.
Ah, c'est parce que le supporter marseillais était avant au 32-16, c'est ça?
C'est ça.
C'est très courageux, ça, madame le capitaine. Je m'en fous pas. Les Bleus poursuivent leur sans faute à l'Eurobasket en battant la Slovénie de Luka Doncic. Julien?
Non, je m'en fous pas.
Sarah?
Je m'en fous pas, mais là, je vais laisser la parole, je m'y connais pas.
David?
Moi aussi.
Ouais, je m'en fous pas.
Simon?
Je m'en fous pas.
Julien?
Alors je m'en fous pas parce que c'est la première victoire un peu solide de référence, on va dire, du nouveau coach, Fred Fotou, qui est, je le rappelle, le coach de l'AGL Bourg-en-Bresse au passage.
On a bien compris.
Voilà.
Non, mais zéro défaite depuis qu'il a pris le capitanat.
Voilà, c'est une nouvelle aventure pour cette équipe. Et puis, bah, quand tu bats Doncic, qui est affûté plus que jamais, c'est pas rien. Donc, j'ai hâte de voir la suite de la compétition. J'espère qu'ils vont se qualifier pour les phases finales pour voir un peu en match coup près ce que ça donne avec quelques absents aussi. Donc, c'est pour ça que je m'en fous pas. Je trouve que ces débuts-là sont très très intéressants.
103-95, la victoire portée par un exceptionnel Sylvain Francisco, 32 points.
Ouais. Ils étaient encore menés.
Ouais, exactement. Ils sont venus. David,
il y a eu un bras de fer de. Ouais, j'ai aimé, parce qu'il y a eu un bras de fer de dingue entre une immense star de la NBA, qui a tenu son rang, hein, mais il était un peu seul. Et puis Francisco, qui lui a explosé le game, quoi. Meilleur marqueur du match, il a marqué 32 points, enfin, donc si j'en ai marqué 39, mais voilà, il est le meilleur joueur, MVP du match. Enfin, voilà, c'était un truc de fou, quoi.
Deuxième.
C'est beau de voir une équipe de France comme ça.
Sans Wembanyama et sans Gobert, on voit effectivement.
Voilà. Fournier, sans Batum qui a pris sa retraite, c'est une équipe en reconstruction. Ouais.
Tiens, David en parlait, Sylvain Francisco, exceptionnel hier, deuxième victoire en deux matchs, hein, pour les Bleus, en affronter Israël aujourd'hui à 17h à suivre sur RMC. Il parle d'un match référence face à la Slovénie.
Bien sûr, c'est un match référence, mais après, voilà, il y a que 2-0 en fait. On ne sait pas ce qui est fait demain, mais le plus important, c'est de rester concentré et aller de l'avant comme ce qu'on fait. Je sens que cette équipe, on grandit de plus en plus en fait. Et puis voilà, malgré que tout le monde dit qu'on a le moins d'expérience, qu'on est l'équipe la plus jeune, bah on essaie de minimiser ça et de montrer que malgré ça, on peut prouver qu'on peut jouer jusqu'à haut niveau. Quoi.
Les Bleus face à Israël à 17h à suivre sur RMC. Et Tony Parker, tiens, sera invité du Stephen Brunch à 13h. Lui qui veut être coach désormais, qui a débuté son parcours de coach. Allez, on zappe, je m'en fous pas. Qui pourra remplacer Julien Beneteau? Pas autour de la table, non. Amélie Mauresmo, actuelle directrice de Roland-Garros, fait partie des candidats pour succéder comme capitaine de l'équipe de France de Billie Jean King Cup. Julien a éteint son micro.
Un devoir de réserve.
On s'en fout pas, évidemment.
Amélie a déjà une expérience avec les garçons. Elle est directrice de Roland-Garros. Est-ce que le cumul des fonctions ne semble pas gêner la gouvernance, même si effectivement la formule de la Fed Cup a quand même changé, donc il y a quand même moins de matchs. Cependant, il y a aussi d'autres candidats ou d'autres candidates, mais elle restera quand même la bonne personne pour coacher une équipe de France.
Est-ce que sa présence dans les gradins à Flushing Meadows pour le deuxième tour de Diane Paris peut signifier quelque chose?
Mais à partir du moment où tu es capitaine, et là je parle sous le contrôle de Julien, quand tu es capitaine d'une équipe, tu vas voir tes joueurs et tes joueuses, et tu discutes avec les staffs. En fait, c'est pas juste de voir des résultats. Après, elle se déplace aussi dans les Grands Chelems parce qu'elle discute avec les autres directeurs de tournoi du Grand Chelem. Donc voilà, il y a une double fonction à suivre. Elle reste la bonne personne, mais on s'interroge sur savoir si on peut empiler les fonctions.
Je rappelle qu'elle a déjà été capitaine entre 2012 et 2016. David Douillet, ça te plairait de revoir Amélie Mauresmo à un rôle sportif,
les plus crédibles et les plus efficients pour ce genre d'exercice, ce sont les anciens athlètes, parce qu'ils connaissent la musique. Et Julien en est la preuve aussi. Donc voilà, moi ça me fait toujours plaisir quand des grands athlètes reprennent le flambeau et s'investissent, parce qu'ils sont pas obligés de le faire non plus. Hein. C'est-à-dire que derrière cette envie, il y a une envie de redonner, de continuer, d'apporter ce qu'on a appris.
Ils sont pas bénévoles,
ça,
David.
Ça me plaît, quoi. Voilà. Non, mais je sais, mais attends. Enfin, on sait que c'est pas une histoire d'argent. Enfin, je crois. Enfin, j'espère. En tout cas, j'en suis sûr même. En tout cas, de la part d'Amélie.
Julien nous a dit avant l'émission qu'il touchait 3 millions de dollars, hein, quand même. T'es là quand même, franchement.
En couchant ou en touchant?
En couchant, ouais. C'est vrai que ce lapsus, il fallait bien le reprendre. T'as raison, t'as bien fait. Allez, on zappe. Je m'en fous.
Ouais, raconte-nous, Julien, alors, raconte-nous tout ça.
Dans le vestiaire tout à l'heure, hein, si vous voulez, c'est le moment des anecdotes. D'accord. Je m'en fous pas. Après Ligue 1 Kids, un programme sur la Ligue 1 à destination des enfants, Canal+ lance F1 Kids. Pour suivre le Grand Prix, et notamment cet après-midi, avec une présentation spécifique aux enfants. David, tu t'en fous pas?
Ouais, je trouve ça génial, je m'en fous pas.
Ah, très bien. On va aller directement avec toi, t'es un grand fan de F1, pourquoi tu t'en fous pas? Je pense que c'est une retransmission un peu plus adaptée, un peu plus colorée pour les gamins sur Canal+ Kids.
Mais c'est super parce que c'est il y a que comme ça qu'on arrive à intéresser parce que ce langage sportif qu'on a hein, est un langage d'adulte, est un langage de connaisseur, est un langage d'averti. Donc le fait de un peu de le vulgariser, de l'adapter à l'esprit des gamins, mais les gamins c'est l'avenir, donc on a tout intérêt à faire ça, et je trouve cette idée formidable.
Et ben voilà, on est curieux de voir ça quand même, hein, pour le coup plus coloré, à quoi ça va ressembler pour le Grand Prix des Pays-Bas que vous pouvez également écouter sur RMC évidemment dès 15h. Allez, on zappe, je m'en fous pas pour terminer. José Mourinho, je sens que ça va vous faire rigoler, a reçu des centaines de millions d'euros en indemnité de licenciement depuis ses débuts comme entraîneur. Alors, vous savez qu'il a été viré de son job de coach de Fenerbahçe. Julien,
je trouve ça fantastique.
Ça. Mais moi, je veux jouer son avocat.
David.
Ouais, moi, ça me. je trouve ça incroyable. Ouais. Mais pas dans le bon sens. Quoi.
Ouais, bien sûr.
Bon, je vous dis tout juste les mots de Fenerbahçe.
Moi, je m'en fous pas, Georges.
Tu t'en fous pas ça, aussi
À moins que tu t'en foutes, mais bon. Non,
là, tout le monde était tellement à bloc. Mourinho aurait perçu 15 millions d'euros en étant mis à la porte de Fenerbahçe, selon le quotidien portugais Record. Il aurait touché environ 108 millions d'euros d'indemnité de licenciement depuis ses débuts en tant qu'entraîneur il y a 25 ans, Simon.
Non, mais c'est le truc de.
Bah, the Special One, hein, le ouais. Goat. Hein, voilà, il laissera sa marque aussi sur cet étage des bouquins de statistiques. Bah écoute, ces indemnités-là, tu les prends dans les clubs les plus riches, donc dans les plus gros clubs, ça dit quelque chose de la carrière qu'il a eue, même si en effet, depuis son deuxième passage à Chelsea, c'est des clubs du deuxième, troisième chapeau européen, mais bon, voilà, je pense que on n'a pas toujours eu la. Il doit être pénible, hein, la deuxième année est souvent un peu plus compliquée, on le sait avec lui, mais. Voilà, je pense qu'on n'est pas toujours aussi patient avec lui qu'on le serait avec d'autres. Et puis, en effet, comme dit Sarah, il doit avoir des bons conseils autour de lui. Il doit commencer à avoir développé un savoir-faire là aussi dans ce domaine-là également.
Bon, il est bon,
comme
Mourinho.
Disait Coluche, du moment qu'on trouve des cons pour payer. Voilà.
C'est magnifique de finir l'heure par une éclat de Coluche comme ça. formidable. Bon, ben voilà, on ferme le zapping. Les amis, on est tous d'accord pour dire qu'on veut l'avocat de Mourinho. Je pense que ça, on est tous d'accord pour dire qu'on s'en fout pas.
Son compte en banque aussi. Hein.
Son compte en banque.
Mais vous êtes sûr, il est encore marié ou pas?
Je sais pas. On a dit que Julien avait pris 5 millions de dollars en étant coach.
Mais surtout, moi, je veux le voir sur le banc de l'OM. Sur le banc
de l'OM.
Ah, je sais pas, tu sais, après Fenerbahçe, on peut tout envisager, pourquoi pas.
Oui, ce serait hautement inflammable, là encore,
on en rêve.
Finalement. Bon, bah, écoutez, dans quelques instants, on va remonter sur le ring des GG, on va parler tennis. On a deux Français en huitième de finale de l'US Open. Faut-il se contenter des performances du tennis français? Actuellement, on vous attend au 32-16 et aussi sur notre numéro WhatsApp. Évidemment, c'est le 06 12 424 424. À tout de suite dans les grandes gueules du sport sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.